Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leur méthode et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way. Je suis très heureux, je suis un peu enthousiaste parce que je rencontre aujourd'hui Judith Benamou. Bonjour Judith.
Coucou.
Alors je suis très content de vous rencontrer parce que vous êtes... est-ce qu'on peut se tutoyer?
Oui.
Ouais, on va se tutoyer. Je suis très content de te rencontrer.
Bien, mais non, peut-être qu'on ne va pas se tutoyer parce que je suis votre aînée.
Mais en fait, je tutoie tous mes invités.
Bon alors,
j'aurais dû vous demander
comme
avant.
Je suis invitée.
On se lance. D'accord. Donc Judith Benamou, vous êtes comment vous définissez d'ailleurs, comment vous vous présentez au monde, comment vous vous introduisez comme disent les Américains au monde quand vous vous présentez à une assemblée?
Eh bien, je suis journaliste spécialiste de l'art et du marché de l'art et commissaire d'exposition.
Très bien. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur votre parcours de vie. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a drivé à faire ce que vous faites aujourd'hui?
Alors, il faut savoir que je viens d'une famille modeste, où on n'allait pas vraiment dans les musées, où il n'y avait pas de pratique culturelle, où on n'achetait pas de disques parce qu'on n'avait pas d'argent, on achetait des livres d'occasion chez le bouquiniste. Donc, je viens d'un milieu où l'art n'était pas au centre de la vie parce qu'on luttait pour vivre. Et donc, il a fallu beaucoup de temps avant que j'ose penser que je pourrais faire quelque chose dans l'art. J'ai fait des études de droit et de sciences politiques parce que l'université était gratuite et que j'avais un vague fantasme d'international. Et donc je me suis dit, je vais faire du droit international. Et puis j'ai fait ces études-là, j'étais boursière. Donc vous voyez, je viens de loin.
Ouais.
Je viens de Salon de Provence. D'ailleurs, j'ai appris que Jacques Mus, il me l'a dit l'autre jour, venait de la même ville. Donc une ville paumée où il y avait un seul musée, c'était le musée de l'armée. Quand je suis arrivée à 20 ans à Paris, ou à 19 ans, je fréquentais un garçon. Mon meilleur ami travaillait chez un commissaire-priseur. Et le soir, on allait dans les cocktails des maisons de vente. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au marché de l'art. Dans le même temps, évidemment, je m'intéressais à l'art. Et je me souviens être allée à Venise et avoir découvert le Guggenheim de Venise et avoir eu un choc parce qu'une des artistes présentées s'appelait Germaine Richier et qu'elle était née à Grance. Grance, c'est un petit village à côté de Salon de Provence. Et je me suis dit, si cette femme-là, qui vient d'un endroit encore pire que le mien, c'est-à-dire non même pas la ville paumée de Salon de Provence, mais le village à côté de la ville paumée, eh bien, il y a tout espoir pour faire quelque chose dans l'art. Et donc, confusément, j'ai commencé à fantasmer, d'autant que quand je visitais le Guggenheim de Venise, j'étais obsédée par la musique d'Eric Satie. Et ce mélange musique-art a créé une idée de beauté complète, de deux sens au moins, et qui m'a fait... vraiment fantasmé, puisque la musique d'Eric Satie, on peut vraiment l'associer au surréalisme, qui est un des éléments clés de la collection de Peggy Guggenheim à Venise.
Magnifique. Quand vous disiez que, enfin, à quel moment vous êtes autorisé, vous l'avez expliqué un petit peu quand vous avez rencontré cet artiste.
C'était quelqu'un, un employé d'un commissaire-priseur. Donc on fréquentait. J'ai commencé non par l'art, mais par le marché de l'art.
Par le marché de l'art.
Et en fait, mon premier job, c'était assistante parlementaire. Et puis, c'était à Montceau-les-Mines, donc très rapidement, j'ai compris que je ne pourrais pas rester à Montceau-les-Mines. Et j'ai cherché un boulot alimentaire. J'ai fait un premier boulot de communication dans la com, et ouais. J'ai été très, très malheureuse. Et rapidement, je ne sais pas comment, j'ai proposé à un magazine d'épargnants qui s'appelle Investir Magazine, une rubrique sur le marché de l'art. Et alors que je ne connaissais absolument rien sur le marché de l'art, ils m'ont accepté.
Incroyable.
Et j'ai vraiment appris. Et pendant des années, je n'ai fait que ça, apprendre. Je suis allée, toutes mes vacances étaient consacrées à la visite de musée. Et c'était quelque chose de très important pour moi de comprendre. Ah, il faut se souvenir, j'ai bientôt 58 ans, donc il faut se souvenir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet. Donc la connaissance, on l'apprenait par les musées et par les livres et par la rencontre des gens. Et donc j'ai utilisé quasi toute mon énergie, parce que dans le même temps j'ai eu une fille, une petite fille, et j'ai utilisé quasiment toute mon énergie à me construire intellectuellement et à apprendre ce grand déroulé de l'histoire de l'art, comment on passe de la figuration à l'abstraction, l'invention de la photographie, pourquoi on a le besoin de faire un type de sculpture cubiste au début du XXe siècle et des choses comme ça. Donc j'ai écrit intimement une sorte d'histoire de l'art personnelle.
Trop bien. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce monde, toi ?
Eh bien, comme j'ai commencé par le marché de l'art, je trouve, et que, en fait, à l'époque, il faut savoir que ni Sotheby's ni Christie's ne vendaient à Paris, n'était autorisé à vendre à Paris. Et le marché de l'art, c'était un marché de notables. C'était un peu le Lions Club. C'est-à-dire que lorsqu'on interviewait un commissaire-priseur, on lui disait « Mais maître, que pensez-vous du Modigliani ?» Et tout ça, ça m'emmerdait. Et donc j'étais la seule journaliste un peu délurée avec des guillemets, qui commençait à intervenir dans le marché de l'art. Alors que je pense que la majorité des journalistes de l'époque avaient le fantasme d'être les gens qu'ils interviewaient, c'est-à-dire les collectionneurs vieille France qui s'intéressaient au mobilier 18e, des choses comme ça. Et moi, par exemple, très vite, j'ai financé mes voyages à New York pour comprendre, puisque New York était déjà l'épicentre du marché de l'art mondial.
Ça l'est toujours ?
Oui. Pour comprendre comment... mais avec des nuances, pour comprendre comment fonctionnait le marché de l'art. Je me souviens, la première fois que je suis allée à New York pour assister à une vente aux enchères, j'avais pas d'argent, donc je suis allée dans un budget hôtel, un hôtel super pas cher, et il n'y avait pas de portable encore. Je parle de l'ancien temps, hein, quasiment...
C'est les années quoi, ça 80
Au début des années 90, il n'y avait pas de téléphone portable, et je me souviens que on m'avait recommandé, donc je téléphonais aux plus grands marchands, etc. Et ils devaient laisser des messages à mon hôtel. Et il y avait un enregistrement automatique qui disait « Hello, you are at the budget hotel, blabla ». Et j'avais honte qu'ils m'appellent, mais c'était la seule solution pour avoir des rendez-vous. Et tout ça, c'est des histoires assez sympathiques quand même.
Ouais.
Et donc, très vite, je me suis démarquée, mais surtout, il y a 31 ans maintenant, j'ai été recrutée pour animer une rubrique aux Échos,
ouais,
sur le marché de l'art.
Très
ça
bien.
Fait 31 ans que je l'anime.
Donc t'as écrit pas mal de bouquins.
Ouais.
Est-ce que tu peux peut-être pas nous les énumérer, mais t'en as fait un. Enfin, ton premier bouquin c'était quoi ? Explique-nous ce que.
Alors d'abord j'ai eu la nécessité de faire des livres parce que. C'est bien de contextualiser, parce qu'on croit que le marché de l'art et l'art, c'est un domaine très rose et les journalistes, ils sont sécurisés dans leur poste, etc. Et je me suis dit, comme j'ai élevé ma petite fille toute seule, je me suis dit, il faut vraiment qu'on me trouve indispensable. Et comment on peut me trouver indispensable ? En faisant des livres, en me distinguant. Et j'ai écrit la première théorie sur l'art et sur l'art contemporain et toute l'absurdité du système de la valeur de l'art qui dépend de critères qui ne sont pas seulement l'œuvre elle-même.
C'était audacieux de faire ça, non ?
Oui, c'était audacieux, mais c'était je crois que c'était en 2001 et c'était super, quoi. C'est-à-dire que c'était la première fois que j'écrivais plus que des articles, j'écrivais une théorie. Et je pense que en fait, il y a quelques années, au moment de la réouverture du au moment de l'ouverture de la Fondation Vuitton, il y avait une conférence sur le marché de l'art et je suis intervenue et j'ai repris mon bouquin de 2001. Et c'était dingue parce que j'avais vu un tas de trucs qui étaient vérifiés et j'étais très fière de ça. Mais audacieux, de toute façon, si on n'est pas audacieux, on fait quoi ?
On ne fait pas grand-chose.
Ouais, voilà.
C'est un peu la thématique de ce podcast. Peut-être pour une question que j'aime bien poser, c'est peut-être pour encore une fois poser la scène, c'est reprendre un peu ton parcours depuis ta putain d'enfance jusqu'à aujourd'hui, mais avec les grands échelons, les grands jalons, les grands milestones, comme on dit en anglais, qui t'ont amené à... parce que moi, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'extrêmement puissant. En tout cas, tu as une voix qui compte dans le monde de l'art.
Merci.
C'est une impression, mais tu rencontres les plus grands artistes, les plus grands collectionneurs. Tu as écrit sur beaucoup de gens, sur les marchés, etc.
C'est très important pour moi.
Tu es commissaire d'exposition.
Ouais.
Et pourquoi c'est important pour toi ?
Parce que ce rapport avec les artistes, parce que c'est d'abord le rapport avec les artistes, et faire quelque chose, produire quelque chose avec les artistes dans une vision singulière, c'est très important et c'est passer de l'autre côté. C'est-à-dire que je passe ma vie à courir le monde pour voir les expos, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'art. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de frontière entre l'art du passé et l'art du présent. J'en suis intimement convaincue. Et je me suis rendu compte après avoir pratiqué quelques expositions, tout à fait inconsciemment, que mes expositions parlaient de ponts entre différentes époques. Donc ça, c'est très important. Et c'est très important, après avoir vu tant d'expos, de passer de l'autre côté et de proposer à mon tour quelque chose. Et ça, on n'est pas grand monde à le faire.
Ouais. Quand tu étais jeune femme, c'était quoi ta vision de toi quand tu avais aujourd'hui, enfin l'aboutissement, c'était quoi? Parce que quand tu te lances sur ce truc-là, sur ce créneau-là, qu'est-ce que tu imaginais, voyais?
Eh ben moi, je pense que j'ai toujours été singulière. Donc je vivais dans cette petite ville, à Salon de Provence. Mes parents étaient singuliers, mon père était ébéniste.
Génial.
Et menuisier aussi, et il travaillait énormément. Ma mère et mon père n'avaient pas fait d'études, mais ma mère avait lu Proust, etc. Elle avait arrêté l'école à 13 ans. Et donc, c'était des gens extrêmement sophistiqués, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autocollants sur le frigo. Et dans le même temps, on ne partait jamais en vacances. C'était pas rigolo, quoi. Moi, je m'emmerdais. Toute mon enfance, je me suis ennuyée. Et vraiment, je pense que c'est certainement ce qui justifie le fait, par exemple, que je voyage autant aujourd'hui. Je me suis tout le temps ennuyée et j'étais tout le temps différente. Parce que dans une petite ville, c'est ça, tous les gens qui sont différents. Moi, j'étais différente parce que je m'intéressais, je ne sais pas, j'allais à la bibliothèque municipale et j'ai découvert certains écrivains chinois. Ou la première fois que j'ai lu Marguerite Duras, ça a été énorme pour moi. Ou un des grands jalons de ma vie, c'était... voir Querelle de Brest. Et donc je pense qu'on est tous ces gens comme moi, on est des sortes de minorités. Alors moi je suis ni homosexuelle ni noire, mais je suis une minorité dans ma façon de penser. Et déjà par exemple je parlais sans accent provençal et j'étais isolée dans ma communauté parce que je ne m'intéressais pas aux mêmes choses que les gens autour de moi. Et donc je m'ennuyais et j'étais isolée. Et je pense que c'est aussi ce qui arrive, par exemple, ce qui est arrivé à des amis homosexuels, garçons, que je connais. Et donc, il y a un moment où on a envie de s'élever, de rencontrer des gens qui nous ressemblent.
Ouais.
Et donc, par exemple, c'est intéressant, je pense, il y a eu un petit miracle à un moment à Salon de Provence, c'est qu'il y avait un ciné-club. Et donc, moi, ma famille était assez sévère, je n'étais pas vraiment autorisée à sortir tard. Mais le ciné-club, c'était à 6 heures. Et ma mère m'a m'autorisée à aller à 6 heures au ciné-club. Et j'ai vu Les Nuits de la Pleine Lune et j'ai vu Querelle de Brest. Et je pense que la vision de ce Querelle de Brest, où j'ai rien compris, d'ailleurs, quand je l'ai regardé de nouveau, c'est un truc très impressionniste sur le désir, sur la sensualité, sur l'interdit. Et quand je l'ai vu, j'ai rien compris, mais j'ai compris que c'était là que je voulais aller. Alors que c'était des questions de désir homosexuel, donc c'était pas moi, je suis hétérosexuelle en plus. Mais c'était fascinant, et l'esthétique était fascinante. Et donc j'ai fait une exposition il y a quelques années, un dialogue entre les sculptures de Rodin
et les photographies de Mapplethorpe. Et en parlant à un des assistants d'Andy Warhol de mon enfance, c'est lui qui a mis en exergue le fait que c'est certainement le film Querelle qui m'avait mis le pied à l'étrier pour m'intéresser à Mapplethorpe. C'est génial, non ?
Trop bien.
Ouais.
Tu n'as pas tout à fait répondu à ma question, mais comment tu te projetais
Je me voyais singulière, ouais. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'était malheureux, parce que j'avais aucune anomalie, mais j'étais différente. Par exemple, je m'habillais différemment. Et donc, avec les garçons, c'était un peu difficile parce que je parlais pas comme eux, je lisais des trucs pas comme tout le monde. Mes copines, elles m'aimaient pas complètement parce que j'étais différente. Donc, je peux pas dire que j'étais rejetée, mais j'étais singulière. J'étais à la fois populaire et en même temps singulière. Et donc, je trouvais pas d'abri.
Et ce monde de l'art qui t'attirait, à un moment, t'as dû te dire, mais c'est quoi ma place ? Je suis artiste, je suis collectionneuse.
Non, j'ai jamais pensé que je pourrais être artiste. Parce que, d'abord, c'est très difficile d'être artiste.
Pourquoi ?
C'est vraiment un sale boulot. Hein. Et moi, peut-être que si je suis créative, c'est dans le domaine de l'écriture.
Ouais.
Et j'adore écrire. Pour moi, c'est très important. Par exemple, quand je passe... Bon, là, je suis un peu à saturation parce que c'est la fin de la saison. Mais me retrouver seule... J'ai mon petit nid dans lequel j'écris. C'est face à la fenêtre. J'ai ma documentation autour de moi. Il y a beaucoup de livres... Et il n'y a personne qui m'embête, et je suis dans ma bulle, et j'essaie d'exprimer. Ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est d'essayer d'exprimer des choses que les autres n'expriment pas. C'est-à-dire parler de ce que va faire naître chez toi la vision d'un tableau, ou quand tu vois une exposition et que c'est une exposition faible, arriver à le justifier sans être méchante, par exemple. Pourquoi cette exposition n'apporte rien avec toute l'expérience que tu as, comprendre que finalement cette exposition n'est pas convaincante. Et puis aussi de faire le luxe de changer d'avis sur un artiste. Tout ça, ça s'apprend avec beaucoup de temps. Et même, par exemple, récemment j'ai interviewé un ou deux artistes et j'avais du mal à formuler comment j'allais articuler cette chose-là, comment se renouveler pour chaque article, parce que j'en écris beaucoup.
Oui.
Et ce sont des artistes, selon moi, qui sont importants. Et donc, il y a aussi une maturation entre le temps où tu l'interviews et le temps où tu ponds ton article. Voilà.
Ça fait beaucoup de thématiques. Alors, le monde de l'art, c'est quoi le monde de l'art ?
Oh, c'est un grand cirque. Il n'y a pas un monde de l'art, il y a plein de mondes de l'art. Il y a le monde de l'art des peintres de Bretagne, il y a le monde de l'art du succès international, il y a le monde des conservateurs d'art ancien, il y a le monde de l'art très contemporain local, le monde de l'art très contemporain des fracs, et il y a le monde des musées américains. Donc c'est un tas de cercles qui s'entrecroisent ponctuellement. Et il y a le monde du marché de l'art international qui est très puissant.
Ok, et donc ces gens se parlent de temps en temps quand même.
Ouais.
Sur le marché. En général, c'est plutôt le point névralgique, c'est quoi ?
En fait, l'anomalie, moi, ce qui m'a le plus frappé quand j'ai commencé dans ce monde-là, c'est que les gens ne sont pas cultivés. Rien, pas de culture. Dans l'art contemporain, pas de culture.
Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
C'est qu'ils ont... Ça veut dire qu'ils
ne connaissent pas l'histoire de l'art.
Non, ils connaissent pas l'histoire de l'art, ils n'ont aucun recul. Et c'est... Aujourd'hui, une grande partie du monde de l'art contemporain, c'est comme la variété en musique. C'est-à-dire que je tairai le nom de cette personne, mais il y a un moment où il y avait un marchand privé, private dealer, qui avait vraiment pignon sur rue, et il m'a dit, je vais voir Julio Iglesias, il y a quelques années, et je vais voir David Copperfield, le magicien. Et je me suis dit, waouh, mais c'est dingue, qu'est-ce qu'il va voir ce mec ? Et en fait, j'ai compris que la clé de son succès, c'était ça. C'est en fait le contraire de moi, le contraire du désir de comprendre et de tout accorder
dans
cette grande
histoire
de l'art. Ce mec-là, il parlait aux gens de manière basique sur le fait que tel artiste soit super, et ça, c'est top. Ça, c'est un des trucs les plus utilisés. Ça, c'est top. Tu vois le niveau d'argumentation, quoi. Eh bien, cet homme-là, c'était un des hommes les plus influents du marché de l'art il y a quelques années. David Copperfield et Julio Iglesias. Donc il n'y a pas de haute et de basse culture, hein. C'est pas ça que je veux dire, parce qu'il y a une culture populaire, c'est-à-dire une culture pop, qui est très importante.
Et qu'il faut connaître aussi.
Tout à fait. Moi j'ai certaines lacunes dans ce domaine-là, mais je suis autodidacte, donc j'ai amassé les choses au fur et à mesure, mais j'aime bien Louis de Funès par exemple, des choses comme ça. Je ne suis pas sûre que j'irai voir Julio Iglesias. Peut-être David Copperfield.
David Copperfield, ça doit être pas mal.
Ouais.
Il tourne encore, David Copperfield.
Je ne sais pas.
Ok, donc monde de l'art, c'est ça, avec assez peu de culture,
finalement. Le monde du marché de l'art,
ouais.
C'est un monde... Le monde du marché de l'art, c'est un monde de mondanité. Et c'est un monde extrêmement social, avec des codes d'apparence.
Ouais. Qui sont
On s'habille d'une certaine manière, on va dans certains endroits. Par exemple, en ce moment, nous sommes en juillet, tout le monde est à Saint-Tropez.
C'est encore la côte, Saint-Tropez, dans le monde de l'art ?
À fond.
À fond.
Parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs importants qui ont des bateaux.
Ouais.
Et qui ont des importants, je veux dire, en termes financiers.
En puissance de frappe financière,
ouais. Ouais. Et qui ont des maisons à Saint-Tropez. Donc, ils ne sont pas chez Sénéquier, là. Ils ne sont pas, je crois que ça s'appelle comme ça, ils ne sont pas au café du village. Ils sont dans leur zone de privilège.
Bien sûr. Et donc, pour rentrer dans ce monde de l'art, finalement, ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup de culture.
Si tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas la peine d'avoir beaucoup de culture.
Mais si tu n'as pas beaucoup de culture, enfin, si tu n'as pas beaucoup d'argent...
Tu peux être malin aussi, parce qu'il y a un tas de petits malins. Et je pense que Paris est une bonne... Aujourd'hui, c'est impressionnant de voir à quel point Paris est une bonne zone de lancement. C'est-à-dire que l'idée, la question, c'est la question de l'ère du temps. Par exemple, en ce moment, l'ère du temps est à la figuration.
Oui.
Le grand retour à la figuration. Et donc, si tu n'as pas d'argent et que tu as absorbé une part des artistes qui semblent les plus pertinents aux yeux des collectionneurs et aux yeux des musées et aux yeux de toute cette programmation, et que tu sais dénicher toi-même dans certaines galeries qui semblent influentes des talents très tôt, il y a des chances. Si tu as, je sais pas, 7000 euros, par exemple, et que tu as commencé très tôt à acheter ces jeunes artistes, pour que tu puisses faire une collection valable. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce don-là de faire la synthèse de ce qu'on appelle le zeitgeist, l'air du temps. Mais si tu as de l'argent, tant mieux pour toi.
Peut-être qu'on va revenir sur des questions assez basiques. C'est quoi une œuvre d'art ?
Ça c'est pas basique du tout.
Qu'est-ce qui est art ?
Un objet au sens très large, ça peut être aussi une expérience qui cristallise un sentiment qui te touche. Je t'ai bien eu là.
Qui cristallise un sentiment qui te touche.
Bah oui.
Donc ça doit te toucher, ça doit te provoquer une sensation, un sentiment.
Si par exemple tu rentres dans une salle qui est baignée d'une lumière bleue avec de la vapeur, ça va créer chez toi un sentiment. Si cette vapeur et cette lumière bleue ont été décidées et installées par un artiste, tu peux dire que c'est une œuvre d'art. Si tu penses à certains artistes anciens qui font, par exemple, si tu penses à Turner, qui fait de grands effets de ciel avec une sorte de vapeur de nuages et avec la mer déchaînée, peut-être que ça crée le même type de sentiment. Et à ce titre-là, tu peux dire qu'au XXIe siècle, on a le droit d'utiliser autre chose que la peinture pour exprimer, pour créer un désir de sensation.
Et donc plus la sensation est forte, plus l'œuvre est chère.
Non, pas du tout. La sensation, cela dit, plus l'œuvre est chère, plus ça crée une sensation chez l'acheteur. Mais c'est un autre type de sensation.
Ouais. Comment on fixe le prix d'une œuvre?
Il y a
écrit un livre entier sur le sujet.
Ouais, c'est ça. Alors, et j'ai pas dit, il a été traduit en anglais, il a été traduit en chinois, il a été traduit en russe. Le premier livre traduit en chinois sur le marché de l'art, c'est le mien. Et
génial.
En russe aussi, d'ailleurs. Je suis assez fière de ça. Et donc, les critères de valeur d'une œuvre d'art tiennent à qui a fait l'œuvre. Est-ce que l'œuvre a été faite, à quelle période a été faite l'œuvre, que représente l'œuvre, quelle est la nationalité de l'artiste, quelle est la nationalité de celui qui possède l'œuvre, est-ce que celui qui possède l'œuvre est connu, qui a vendu l'œuvre, par quelle main elle est passée, est-ce que l'œuvre est en bon état, quel est le format de l'œuvre, quel est le tu vois, donc il y a tout un faisceau d'indices qui vont influer sur l'œuvre d'art. Par exemple, si tu as une œuvre d'un artiste contemporain turc aujourd'hui, c'est pas sûr que ce soit une vertu. En revanche, pendant très longtemps, le fait d'être un artiste américain, c'était un avantage sur le marché de l'art.
Pourquoi ?
Parce que en fait, les acheteurs aiment acheter d'abord, quand ils commencent particulièrement, de l'art de leur pays. Donc, je me souviens, une fois, j'avais interviewé Ernst Beyeler, qui est mort depuis bien longtemps et qui a créé la fondation éponyme à Bâle, la fondation Beyeler. Et j'ai dit, c'est quoi la tendance ? C'était à la foire de Bâle, mais il y a 20 ans. Il m'a dit, eh bien, les Belges achètent de l'art belge, les Français de l'art français, les Italiens de l'art italien. Allez, retourne dans ta caisse. Et en fait, c'est quand même un peu comme ça, avec certaines nuances. Et donc, les Chinois aiment acheter de l'art chinois, et les Français veulent voir de l'art français dans les musées, et ils achètent aussi de l'art français.
Mais ça s'explique peut-être tout simplement parce que ça les touche, parce qu'il y a les mêmes références culturelles et les mêmes esthétiques, non, comment tu expliques ça?
Quand on commence, c'est normal, mais après, quand on évolue, on voit qu'il n'y a pas de frontières, ni de temps, ni d'espace dans l'art. Et moi, quelquefois, ça m'agace un peu, parce que si une artiste chinoise est merveilleuse, on s'en fout qu'elle soit chinoise.
Ouais.
C'est-à-dire, si elle exprime... Par exemple, il y a une artiste merveilleuse qui s'appelle Firenze Lai, et qui est de Hong Kong. J'y pense parce que j'ai vu sur Instagram une de ses œuvres récemment, qui est vraiment belle. Et maintenant, elle est allée à Londres. Elle a quitté Hong Kong. Et elle exprime... Je pense qu'elle doit se sentir très seule, parce que son propos, c'est toujours des êtres dans la société. Elle décrit non des êtres précis, elle ne fait pas des portraits de gens, mais des portraits d'attitude dans un contexte. Et là, elle fait un portrait de gens dans la solitude. C'est très fort.
Ça te touche. C'est marrant parce que quand tu parles des œuvres, à chaque fois, on sent que tu as une émotion.
Bah c'est ça, non ?
Je ne sais pas, c'est la question que je te pose.
Mais à part une émotion, tu vas avoir quoi ? Une désémotion ? Mais je suis assez sensible, c'est-à-dire par exemple, il y a un art que je trouve dégueulasse, par exemple. Tous les trucs faibles, tous les trucs de copie, toute la peinturlure, ça me dégoûte quoi, carrément.
C'est quoi la peinturlure ?
La peinturlure, c'est les trucs des gens qui prennent le pinceau et qui n'ont pas d'âme. Qui n'ont pas d'âme dans leur pinceau. Peut-être qu'il faut qu'ils fassent des fringues ou de la cuisine. Mais leur voix n'est pas la peinture. Et ça fait souffrir, quoi, de voir ça en plus de tout le reste, parce que j'ingurgite beaucoup d'art chaque semaine.
Ben, j'imagine, ouais.
Mais attention, ce qui est important, il faut le dire à tout le monde, c'est de voir l'art en vrai, par la reproduction. C'est-à-dire, quand on regarde un Van Gogh, je suis allée il n'y a pas longtemps au musée Van Gogh à Amsterdam, voir une expo sublime. Et Van Gogh, je trouve qu'il incarne très bien ça. Une expo sublime des derniers Van Gogh à Auvers-sur-Oise avant qu'il suicide. Et il a un travail qui est très épais en matière. Et quand tu vois la reproduction d'un Van Gogh, ça n'a absolument rien à voir avec le Van Gogh lui-même. Et je conseille à tout le monde d'aller voir l'exposition. Elle va être à Orsay en octobre.
D'accord. Il y a beaucoup de reproductions dans les musées ?
Non, pas dans les musées. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est englouti sous les images.
Oui, bien sûr.
Et la plupart des gens qui connaissent Van Gogh, ils connaissent Van Gogh à travers la reproduction de Van Gogh.
On se fait des fantasmes
de Van Gogh. Moi, je me suis aperçue, par exemple, que j'avais l'impression d'avoir vu des tournesols de Van Gogh, des champs de tournesols de Van Gogh. Eh bien, il n'a pas fait de champs de tournesols, il a fait des tournesols dans des vases.
Oui, c'est vrai.
C'est dingue. Et donc, on a un fantasme des œuvres d'artistes qui n'ont rien à voir avec les œuvres d'art elles-mêmes. Donc s'il vous plaît, allez regarder les œuvres, trouvez le moment où il y a moins de monde dans les musées, surtout pour Van Gogh, c'est un blockbuster, mais il faut avoir cette sensualité-là, c'est sublime.
Et de s'approcher de la peinture et voir la matière, quoi.
Ouais, c'est super, ça c'est super, et ça transporte. Quelquefois c'est tellement puissant que je me suis aperçue que je suis obligée de m'éloigner de l'œuvre, et j'y reviens parce que ça a un impact trop fort sur moi.
Pourquoi tu disais que le métier d'artiste, c'était un sale... Enfin, c'était quoi le terme tout à l'heure que tu as utilisé ?
Sale boulot.
Un sale boulot ?
Ouais.
C'était un sale boulot.
Bah, c'est très ingrat. Hein.
Pourquoi ?
Parce que les artistes les plus pertinents, en plus, ils voient plus en avant que nous. Donc, il faut un temps pour comprendre. Et je pense qu'ils peuvent être maltraités, ils peuvent être incompris, et ils peuvent être pas du tout compris de leur vivant aussi.
Ça, c'est pénible. Ouais.
Eh ben oui, et aussi, ils peuvent être médiocres.
Et ça arrive.
Ils peuvent être médiocres et reconnus, beaucoup. Ils peuvent être médiocres et pas reconnus.
Qu'est-ce qui fait qu'un artiste est reconnu à un moment donné ?
Mais tu m'as posé une question aux voisines, pose-moi une autre question. Tu m'as dit quels sont les critères de valeur d'une œuvre d'art ? C'est la même chose. Un artiste reconnu, c'est un artiste qui passe par les passages obligés de la reconnaissance de l'art. Donc, si tu vas dans une bonne école d'art, c'est mieux, parce qu'il y a les recruteurs qui passent par là aussi, c'est-à-dire, par exemple, si tu vas à l'école des Beaux-Arts à Paris ou à la Villa Arson à Nice, il y a des galeristes qui vont venir regarder ce que tu fais. Aujourd'hui, Instagram, c'est aussi un excellent vecteur de reconnaissance. Après, si tu es dans une galerie branchée, il y a quelques jeunes galeries à travers le monde qui sont connues pour leur œil. Et donc, si tu appartiens à l'écurie d'une de ces galeries, tu as des chances d'être reconnu.
Tu peux m'en citer quelques-unes ?
À Paris, par exemple, il y a une excellente galerie qui s'appelle Bali Chertling. Il y en a une autre qui s'appelle High Art. Qu'est-ce que je peux te dire ? Ah oui, il y en a une autre qui a un très joli nom, elle s'appelle Crève-Cœur. Et donc, comme ça, il y a un faisceau d'éléments de reconnaissance.
Et petit à petit, on fait son chemin.
Oui. Et donc, aujourd'hui, il y a un petit réseau mondial de ces galeries. Par exemple, toutes les galeries reconnues en France connaissent très bien les galeries reconnues à Istanbul, à Athènes et à Los Angeles. Hein. C'est un petit cercle.
On parle beaucoup de la financiarisation du monde de l'art.
Ouais.
Ça veut dire quoi ?
Bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, les galeries sont devenues des mastodontes financiers qui ont des succursales à travers le monde et qui, pour financer cet exercice, ont différentes stratégies. D'abord, certaines galeries ont des espaces qui ont pignon sur rue. Si on voit Hauser & Wirth ou Zwirner ou Gagosian, à New York, ils ont plusieurs galeries. Et on sait que l'immobilier à New York est extrêmement cher. Ils ont des galeries avec des espaces gigantesques, mais vraiment gigantesques. Donc, quand toi, tu vas aller acheter une œuvre d'art chez Gagosian ou chez Hauser & Wirth, d'ailleurs, Hauser & Wirth s'installe en septembre à Paris, ils s'installent rue François 1er, ils vont occuper tout le bâtiment de l'ex-Europe 1. Tu imagines ? C'est-à-dire qu'il faut que le prix de l'œuvre répercute le prix du loyer, évidemment.
Ben oui.
Il faut qu'ils vendent beaucoup et il faut souvent qu'il y ait des systèmes de ce qu'on appelle les backers, ceux qui filent du fric. Donc, il y a des systèmes complexes. Par exemple, chez Hauser & Wirth, on dit que c'est la belle-mère de Ivan Wirth, qui est une dame qui a une société d'électroménager du genre Darty, qui sème particulièrement dans les pays de l'Est, qui finance. On dit ça. On voit qu'Emmanuel Perrotin a pris un partenaire financier récemment pour baquer, comme on dit inélégamment, son exercice. Et par ailleurs, Sotheby's et Christie's aujourd'hui font non seulement des ventes aux enchères, mais font aussi des ventes privées. Donc tout le monde aujourd'hui est en train de se partager une part du gâteau qui s'est sensiblement agrandi dans les dernières années, parce que le marché de l'art s'est agrandi, parce qu'il y a beaucoup de... C'est agrandi non seulement au sein des pays occidentaux, parce que le marché de l'art contemporain est à la mode. Donc beaucoup de personnes ont acheté de l'art contemporain en suivant un effet de mode. Mais dans le même temps, il s'est agrandi aussi géographiquement, parce qu'on a vu par exemple que les Chinois ont beaucoup acheté, aujourd'hui moins les Russes, mais à un moment les Russes ont beaucoup acheté. Et donc il y a de nouvelles fortunes mondiales, l'Indonésie a beaucoup acheté. Il y a de nouvelles fortunes mondiales qui se sont intéressées à l'art contemporain et qui ont fait sensiblement augmenter les prix.
Très bien. Donc finalement, donc le prix. Une question qui est un peu complexe qu'on je l'ai écrite et je te l'ai dit, mais c'est dans quelle mesure c'est l'œuvre d'art qui fait le prix ? Et pas le prix qui crée son propre marché. C'est-à-dire que du constat que sans cote, on n'existe pas en tant qu'artiste, alors on se crée une cote artificiellement. Il suffit de deux personnes finalement pour faire monter un prix en salle de vente et du cash.
Non, c'est pas comme ça, parce qu'en fait, il y a différents marchés de l'art. Il y a un marché de l'art aux enchères et il y a un marché de l'art en galerie. Et les deux ne se croisent pas toujours. Par exemple, il y a un artiste qui est très important au niveau mondial, qui est un Français, qui vit au Chili et qui s'appelle Pierre Huyg et qui fait que des installations. Donc, quasiment que des installations. On ne peut pas nier l'influence mondiale de Pierre Huyg, c'est évident. Et c'est un garçon assez difficile, je veux dire. Donc, il n'est pas installé sur le marché de l'art. Il n'est pas installé en vente aux enchères. Je ne sais pas, sa cote doit être très médiocre. Et pourtant, il existe. Il existe parce qu'il y a d'autres systèmes. Il a participé à la Documenta de Kassel. Il est soutenu par des grands collectionneurs comme Maya Hoffmann-Arl. Et où il a eu une rétrospective au Centre Pompidou. Et à New York. C'est quelqu'un de très important. Et pourtant, sa cote aux enchères, je ne la connais pas. Mais à mon avis, elle est dérisoire. Donc, il y a des artistes qui sont l'objet de spéculation ou pas de spéculation, mais qui ont une cote importante avec leur consentement ou malgré eux. Par exemple, il y a un artiste qui s'occupe de l'idée de la reproductibilité en art qui s'appelle Christopher Wool et qui a eu une cote très spéculative en dépit de lui-même pendant des années. Et par ailleurs, il y a des artistes qui sont l'objet de spéculation. Donc tout ça est soumis à une infinité de nuances.
Très bien.
Et on peut être un artiste pertinent et reconnu sans avoir une cote.
Et on peut faire l'inverse ?
Ah oui, on peut vendre très cher. Par exemple, Damien Hirst, il a fallu attendre très longtemps avant qu'il ait des expos dans les musées. La première expo majeure dans un musée, c'était à la Tate Gallery à Londres. Et je me souviens que dans le même temps, et donc c'est quand même l'enfant du pays, quoi. Et pourtant, il avait aucune expo dans les musées. C'était le roi du marché de l'art. Il a fallu attendre cette rétrospective à la Tate. Et dans le même temps, ils ont fait une rétrospective d'un artiste italien conceptuel qui s'appelle Alighiero Boetti, où il n'y avait personne. Et comme pour contrebalancer l'offre Hirst, ils ont fait l'exposition de l'italien où il n'y avait personne. Et tout ça pour dire que peut-être que dans l'histoire, Boetti restera. En tout cas, moi, je pense que Damien Hirst, il a existé du temps des Young British Artists, c'est-à-dire à son avènement dans les années 90. Et après, il a fait uniquement ou quasi uniquement de la redite, sauf quand il a fait son show spectaculaire chez Pinault à Venise. Et l'œuvre d'art, c'était l'ensemble de l'exposition, mais les œuvres prises individuellement n'étaient pas bonnes.
Et comment tu juges de ça, toi ?
Quoi ?
Qu'une œuvre n'est pas bonne ?
Alors, d'abord, je pense qu'elle n'est pas bonne, et puis après, je me donne l'autorisation de changer d'avis. Ou de dire qu'elle est bonne, et après de penser. Eh bien, il y a un faisceau d'indices, c'est-à-dire en quoi c'est pertinent, est-ce que c'est nouveau. De la même manière, Damien Hirst a fait une exposition de peinture manuelle, parce que lui, il utilisait la mécanisation. Il a fait une exposition de peinture, peinture d'arbres, de cerisiers en fleurs, à la Fondation Cartier, et je suis arrivée là et ça m'a quasiment agressée tellement c'était tellement c'était mauvais. C'est-à-dire, c'était insupportable. C'était de la peinture pour Instagram. Il y avait... En fait, il y a quelque chose de vraiment magique dans la peinture, hein, d'assez émouvant, qui passe au travers... Finalement, ce qui est intéressant dans l'art, c'est tout ce qui est du règne de l'indicible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon travail est délicat et qui nécessite quelquefois du temps. Parce que tu racontes des trucs qui sont du règne de l'indicible. C'est-à-dire que n'importe qui, enfin 80% des gens qui vont voir une série de 10 Van Gogh vont être très émus par ces Van Gogh. Et ça, c'est génial. Et moi, quand je suis allée voir ces cerisiers en fleurs de Damien Hirst, j'ai vu des images plates, comme des reproductions. Et ça, c'est dégoûtant.
C'est marrant. Moi, je les aime bien, ces images.
Et tu les as vues en vrai ?
Non, je les ai pas vues.
Bah, tu vois, ouais. Moi aussi, je les aime bien en reproduction.
En vrai, c'est dégueulasse.
C'est pas dégueulasse, mais c'est comme un poster.
Je vois ce que tu veux dire, je comprends.
Et Damien Hirst, c'est un mec cynique. Hein. Je l'ai interviewé il y a longtemps, depuis il a toujours refusé que je l'interviewe.
Pourquoi ?
Mais je l'ai interviewé il y a longtemps et il m'a dit « Tu sais ce que disait John Lennon pour dire avant-garde, en anglais on dit bullshit. » C'est drôle, non ?
C'est rigolo.
Vraiment cynique.
Il est cynique. Pourquoi il a réussi tant que ça, lui, alors ?
Bah, parce qu'il a eu un moment de génie absolu et il raconte très bien que c'était un moment où il a été très créatif et il avait une vision de la société qui était une vision désenchantée. Et à ce moment-là, il buvait beaucoup d'alcool et il était assez drogué. C'est lui qui me l'a dit. Et tout d'un coup, il a tout arrêté. Et il avait un manager qui était un manager de clown avant. C'est drôle, ça, j'adore cette histoire. Et il est sorti de ce monde hallucinogène et il a commencé à avoir des stratégies, y compris en termes immobiliers.
Et c'est devenu un businessman.
Ah ouais, c'est un gros businessman, je pense. C'est un mec malin, c'est un géant de la communication. C'est un vrai géant de la communication.
Mais c'est là où ça paraît fou, où finalement un artiste qui est internationalement reconnu, finalement c'est un super businessman, quoi. Avant tout un businessman.
Non, mais tu peux être un businessman, j'ai écrit un bouquin entier sur le sujet, tu peux être un businessman et être un important artiste. Par exemple, Rubens, au 17e à Anvers, il avait une stratégie de production et jusqu'à aujourd'hui, c'est un très important artiste. Simplement, il faut distinguer les bons des mauvais tableaux.
Les artistes ont toujours aimé l'argent. C'est ce livre dont tu parles, dont tu fais allusion. Ils ont tous toujours aimé l'argent ?
Non. Par exemple, Giacometti, il n'aimait pas l'argent. Il y a Mag, le fils Mag, comment il s'appelle déjà ? Pas aimé, donc son fils. Il m'a raconté qu'une fois, il est allé dans l'atelier de Giacometti. Il y avait un collectionneur qui a vu une œuvre et qui lui dit « Ah, je veux absolument cette œuvre !» C'était un plâtre. Et je vais t'en donner X millions, ou un truc comme ça. Et quand il est revenu le lendemain, Giacometti avait détruit l'œuvre. Parce qu'il ne supportait pas qu'il y ait une telle surenchère financière sur l'œuvre. Donc il y a des artistes qui sont complètement affranchis et même qui ont une sorte de détestation pour cette fétichisation financière. Et pourtant, Giacometti... on peut pas nier qu'il ait atteint la postérité.
Clairement. Tu as écrit aussi un livre qui s'appelle Global Collectors.
Ouais.
Où là tu dresses le profil de 120 collectionneurs d'art internationaux. Qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as appris de ces 120 personnalités ?
J'avais envie de faire une sorte de photographie. Tu vois, là j'ai été un peu prétentieuse parce que je me suis dit peut-être que dans 50 ans, il y a un étudiant en histoire de l'art trouvera ce bouquin et qui verra là le portrait de la collection au début du 21e siècle. Et donc j'ai fait une sorte de tour du monde des collectionneurs et je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient réalisé que j'ai fait ça, mais 120 collectionneurs, c'est énorme, à travers le monde entier. Et donc ce qui m'intéressait, c'était leur ressort intime. Pourquoi tu amasses des œuvres d'art ? Quels sont tes critères de choix ? Quelles sont tes obsessions ? Ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'intimité de ces gens-là, le ressort psychologique, les passions, Et c'était souvent des... C'était souvent en relation avec les parents. Par exemple, il y en a un qui collectionnait l'art chinois parce qu'il voyait rarement son père. Et lorsqu'il était petit, pendant que son père se rasait, il lui racontait des histoires de ses voyages en Chine. Eh bien, c'est devenu le premier collectionneur d'art chinois au monde.
Mais ça vient souvent de l'enfance.
Enfin, ouais, c'est ça.
Tout vient de l'enfance, en fait. Ouais. Beaucoup.
Tout à fait.
On est à côté de Kering. Qu'est-ce qui a amené... Pourquoi les géants du luxe s'intéressent tant à l'art ?
L'art contemporain est un domaine à la mode. Hein. Dans les années 80, 70, c'était la pop music. Mmh. Et là, je pense que c'est vraiment l'art qui...
Qui est à la mode.
Oui.
Donc c'est juste pour ça.
C'est que dire d'autre ? C'est une manière aussi d'anoblir une industrie. L'art, c'est pas une industrie. Hein. La mode, c'est une industrie. Et donc, c'est une manière d'anoblir, de donner un caractère de noblesse à ces choses-là. La première fois que j'avais rencontré Pierre Berger, donc le partenaire à la ville d'Yves Saint-Laurent. Ouais. Et on a parlé de littérature d'abord, et après on a parlé de mode. Et je lui ai dit, selon moi, le moment artistique de la mode, c'est le défilé. Il m'a dit, c'est ça. Et le lendemain, il m'a fait livrer 15 livres d'Edith Wharton, parce que je ne connaissais pas Edith Wharton, il était génial. Et ce Pierre Berger, c'était vraiment un homme exceptionnel. Eh bien, il y a un moment dans la mode qui est très fugace, c'est ce moment de performance. Mais qui est très fugace, c'est 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes, ouais. On attend pendant des heures, et puis il y a tout le cinéma social autour de ça. Et alors qu'un tableau, finalement, ça reste plus longtemps. Ou disons que si on fait dessiner un sac à main par un artiste, peut-être qu'on détient un peu de son génie. Et j'étais une des rares à avoir défendu les sacs de Jeff Koons. Et de la même manière, je pense que Yayo Kusama, tellement impliqué avec Vuitton, c'est tout à fait conforme à l'esprit. Tout à fait conforme à l'esprit des artistes pop. Quand on s'intéresse à l'histoire de l'art, on voit que ce genre de ce que les gens d'aujourd'hui appellent de compromission a toujours existé. Par exemple, les artistes modernes, par exemple Magritte, il a mis en place son vocabulaire avec les publicités qu'il a dessinées pour un fourreur. J'avais un ami qui était le plus gros collectionneur au monde de documents sur l'art. Et une fois, j'ai dit, je m'intéresse à Magritte, et il m'a dit, viens voir ma collection. Et il avait des tas de petits prospectus, comme on disait, qui étaient faits pour un fourreur, où on voyait, au début des années 30, le vocabulaire de Magritte. Man Ray a beaucoup travaillé pour la mode. Dali, n'en parlons pas. Si on parle, après, j'ai fait une exposition Warhol. Warhol, il n'avait de cesse que de travailler pour les marques de luxe. Mmh. Il avait même une chaîne de télévision. Il a fait un film pour Bottega Veneta, je crois, à l'époque, que j'ai vu, qui n'a aucun intérêt d'ailleurs. Mapplethorpe, j'ai travaillé beaucoup à son sujet. Il a essayé de faire de la photo de mode, elle n'était pas bonne, mais il a essayé tout de même. Donc, il y a une légitimité pour les artistes, et pourquoi pas gagner du fric en collaborant avec la mode. Et Yayo Kusama, qui est en quête permanente de postérité, c'est une femme âgée, et qui vit dans un asile, volontairement d'ailleurs, et je pense qu'elle avait le désir d'être partout, et grâce à la force de frappe LVMH, elle a réussi à être partout. Moi, j'étais le 31 décembre, j'étais à Tokyo, et il y avait Yayo Kusama en immense sur Omotesando, c'était dingo, elle sortait littéralement de l'écran, quoi. Et pourquoi pas?
Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Mais il faut. Après, il y a différents types d'artistes. Il y a des artistes intimistes et il y a des artistes commerciaux. D'ailleurs, à un moment, Warhol a souffert de l'étiquette qui lui était attachée d'artiste commercial.
Quand tu travailles sur une exposition là, comme sur Warhol TV par exemple, ou plus récemment au Guggenheim de Bilbao, comment tu t'y prends Et je peux te poser la même question sur un livre. Ça paraît colossal comme travail.
Je sors un livre d'ailleurs en octobre.
Qui s'appelle
10 histoires extraordinaires de l'art à l'hôtel de Rouault, de Vermeer à Louise Bourgeois.
Génial. Ça sort chez qui?
Flammarion.
Flammarion. Très bien. Eh bien, on sera au rendez-vous. Ma question, c'était comment est-ce qu'on aborde ce genre de travail qui paraît colossal, d'écrire un livre ou de faire une exposition. Comment tu t'y prends? C'est quoi ta méthode? C'est quoi la méthode, Judith?
La méthode Judith, écoutez bien, vous prenez un kilo de farine. Non, en fait, je brasse tout le temps plein d'idées sur l'art. D'abord, parce que quand j'attaque un article, j'essaie toujours de l'attaquer par une observation sur le phénomène attaché à l'exposition, par exemple, ou attaché au marché de l'art. Et donc, j'ai une quantité d'observations qui m'amène à chercher à synthétiser ça. Et il y a des sujets qui me sont particulièrement chers. Certains que j'exploite, d'autres que j'exploite pas. Par exemple, ça fait des années que je m'intéresse à un artiste auquel j'ai consacré un livre. Et j'ai jamais fait de pub sur ce livre. Et tout le monde se fout de mon sujet. Et je pense que c'est un sujet qui aujourd'hui est dans l'air du temps et qui ne l'était pas à l'époque. Je me suis intéressée à un artiste du 18e siècle brésilien qui vivait dans le Minas Gerais, donc plusieurs handicaps brésiliens, 18e siècle, Minas Gerais, donc tout le monde s'en fout. Et moi, j'ai eu une véritable passion, j'ai fait un livre sur lui, oui, qui est paru aux Presses du Réel. Et pour moi, il incarne un grand espoir parce qu'il était noir, fils d'esclave, et qu'il est devenu au 18e siècle, alors que l'esclavage a été aboli en 1888 ou 88 au Brésil, il est devenu une star au Brésil. Et il était noir. Et c'est génial. Et donc, il y a 7 ou 8 ans, je me suis intéressée au sujet, j'ai réussi à faire un livre. Bon, et pour l'instant, je n'en ai rien fait d'autre que ce livre que personne n'a lu. Mais je suis très heureuse d'avoir fait ce livre. Et pour moi, avant qu'on s'aide, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande vogue pour les artistes noirs, et je pense que c'est important, et c'est tant mieux, parce que c'est une injustice à réparer. Et Aleja Diniu, c'est son nom, c'est son surnom en fait. Aleja Diniu, il est très important, pas qu'au Brésil. Il est important pour l'humanité entière. Ou comment au XVIIIe siècle, un artiste, par la force de sa passion et de son génie, est devenu un artiste reconnu alors qu'il était fils d'esclave. C'est sublime. Il faut avoir des histoires porteuses comme ça. Par exemple, l'expo que j'ai fait l'année dernière au Guggenheim Bilbao, elle m'est venue parce que j'avais une passion pour Georges Seurat, pour les dessins de Georges Seurat. Georges Seurat, c'est un artiste post-impressionniste qui a mis au point une technique très sophistiquée de dessin où il fait surgir de l'ombre du crayon sur un papier spécial qui est un papier avec de la matière. Il fait surgir des formes du noir et c'est sublime. Et je me suis intéressée à ça et je savais de longue date qu'un artiste contemporain connu pour ses sculptures, qui s'appelle Richard Serra, un Américain, était passionné par Georges Seurat. Parce qu'en fait, j'avais amené Richard Serra, par coïncidence, chez un grand collectionneur de dessins de Georges Seurat. Et Richard Serra, qui est connu pour être un homme extrêmement sévère, était en pâmoison totale. Il avait un sourire immense en voyant ses dessins. Et à un moment, il avait dit, en voyant un des dessins, « Je veux faire ça ». Il a vu un dessin figuratif. Et il a dit, je veux faire ça, alors que lui, il est dans l'abstraction. Et quand je suis allée au Guggenheim Bilbao, j'ai vu le directeur et je lui ai dit, ici, c'est la maison de Richard Serra. Il faut faire une exposition, Serra sera les dessins. Et quelques mois plus tard, cet homme qui est exceptionnel, qui est le directeur du Guggenheim Bilbao, m'a écrit et m'a dit, si tu veux, on fait l'expo. Génial, non?
Extraordinaire.
Ouais, mais ça arrive une fois sur 50. Hein. Pas sur 50, sur 100, parce que lui, il était honnête. Et comme il me suit par mon blog, il a compris que j'étais capable de faire une exposition pareille, parce que c'est très difficile d'emprunter des dessins de Seurat, parce qu'ils sont précieux et fragiles. Et qu'une fois qu'on a montré ces dessins, ils doivent dormir 3 ans. Donc il y a eu beaucoup de dessins de ce rat montrés récemment, donc c'était très difficile de faire cette expo, mais j'en ai réuni 22 quand même. Et donc, en plus, il a été assez honnête, non seulement pour prendre l'idée, mais aussi pour me donner l'idée que je lui avais donnée et m'attribuer la possibilité de réaliser l'exposition. Donc c'était exceptionnel à plusieurs titres.
Donc ça, c'est un rêve qui se réalise de pouvoir faire des expositions.
Ah, c'est merveilleux.
C'est merveilleux.
C'est exceptionnel. Et surtout, il s'est passé un truc. C'est intéressant parce qu'en te parlant, je me rends compte à quel point j'ai des émotions avec l'art. Parce que, en fait, quand je suis arrivée pour l'accrochage des œuvres d'art, on a accroché d'un côté les Serra, mais il y avait l'assistant de Richard Serra qui était chargé de l'accrochage. Et de l'autre côté, les Serra. Il y avait 22 Serras qui venaient du monde entier. Et c'était un moment où j'étais très triste et un peu isolée, seule à Bilbao. Et donc, j'étais à l'hôtel, je ne voyais personne, à part dans la journée, j'étais dans le musée. Et je me suis retrouvée avec ces dessins. Et je dois dire que les dessins m'ont donné de la force. C'était un moment difficile de mon histoire personnelle. Et les dessins m'ont illuminée. Ces dessins en noir et blanc, ils avaient comme une âme. Et en plus, ce rat, il est mort à 32 ans. Comme ça, il a été balayé. Et c'est comme son testament. Et comment des œuvres d'art peuvent t'inoculer une force hors du commun. Ce sont des dessins qui ont une âme. Et d'ailleurs, les collectionneurs privés qui possèdent ces dessins-là, ils ne les ont pas passés. Ils n'ont pas envie d'en séparer. Il y a eu quelques collections privées, mais très rares.
On parle de chef-d'œuvre. C'est quoi la différence entre une œuvre et un chef-d'œuvre?
C'est intéressant, ça. Dans la notion de chef-d'œuvre, il y a une notion d'absolu. Il y a quelque chose qui dépasse tout. Et je peux te donner quelques chefs-d'œuvre. Par exemple, je pense que il y a eu une rétrospective Vermeer récemment et il y a un tableau qui s'appelle La Petite Rue de Vermeer qui est d'une extrême sophistication et qui comprend plusieurs œuvres dans l'œuvre qui est peint de manière extraordinaire. C'est intéressant parce que Vermeer, on le connaît pour ses vues d'intérieur. Et ce tableau-là, c'est une petite rue à Delft, j'imagine, où on voit une maison, donc une construction géométrique avec certains personnages qui vont dans la profondeur de la petite rue et qui animent le tableau. Eh bien, il n'y a pas longtemps, je me suis encore rendu compte qu'il y a un banc devant la maison et que sous le banc aussi, il y a deux enfants qui jouent. Et donc, ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que tout le temps, tu découvres des sources de fascination. Où il y a d'autres types de chefs-d'œuvre qui sont des choses qui sont presque insupportables à regarder tellement c'est puissant. Il y a un artiste américain très connu, pour lequel j'ai une sorte de passion, qui s'appelle Arthur Jaffa, qui vit à Los Angeles et qui a fait une œuvre vidéo qui s'appelle Love is a message, the message is death, et qui associe à de la musique des images récoltées sur Internet et qui raconte à la fois la fascination, toute la place laissée à l'amour, à la passion et à la violence dans la communauté noire. Et c'est hypnotique.
Et sur une musique de Kanye West, non?
Ouais, mais qui l'a volée.
Ah ouais?
Et après, Kanye West l'a contacté. Bah, moi, Arthur Jaffa, j'essaie de le suivre dans toutes ses expos. Donc j'ai vu peut-être 5 expos de lui, je l'ai interviewé 4 fois. Il a dit il n'y a pas longtemps que j'étais sa journaliste préférée.
Miaou ! Incroyable.
Et ça c'est génial parce que c'est un artiste américain.
Trop cool.
Et je pense qu'avec cette œuvre-là, qui a d'ailleurs été achetée par des musées majeurs du monde, il a créé un jalon de l'histoire de l'art du 21e siècle. Et bon, il y a des fois où je suis à côté de la plaque, mais là, je pense que je ne suis pas du tout à côté de la plaque. C'est un chef-d'œuvre, il n'y a aucun doute là-dessus.
J'adore.
Pourquoi tu rigoles?
Non, mais j'adore l'aplomb que tu mets dans les choses, et je trouve ça génial.
Pas toujours, hein, parce que moi je suis pleine de doutes. Je pense que la vraie intelligence, je ne dis pas que je suis intelligente, mais la vraie intelligence, c'est de remettre en question en permanence. C'est un exercice d'honnêteté qu'il faut avoir tout le temps. Ça, je l'ai appris en lisant la biographie de François Truffaut. Il changeait tout le temps d'avis. Et c'est un génie, François Truffaut.
La Campbell Soup Cans de Andy Warhol, c'est un chef-d'œuvre ?
Non.
Qu'est-ce qui dicte c'est un chef-d'œuvre ou pas ? Chacun peut dire ça c'est un chef-d'œuvre et ça c'est pas un chef-d'œuvre ?
Ah bah oui, de toute façon, même s'il y a un truc qui se vend 120 millions de dollars et qui te plaît pas, si pour toi c'est pas un chef-d'œuvre, c'est respectable, hein ? Pourquoi pas ?
Bah ouais.
Il a d'autres œuvres. En fait, ce qui est intéressant chez Warhol, comme chez les grands artistes en général, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Donc Warhol, c'est un artiste conceptuel et dramatique. Et moi, c'est ça que j'aime chez lui. Par exemple, ce que j'aime chez lui, c'est les très grands formats abstraits. Il y a une série tardive qui s'appelle les Peace Paintings, où il a fait des oxydations de matière qu'il a colorées, et oxydation par le pipi. Et ça donne des œuvres abstraites, et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait c'est un vrai artiste conceptuel. Parmi les œuvres dramatiques, et elles valent très cher aujourd'hui, il a fait toute une série sur les qu'on appelle les disaster paintings, et c'est des images de désastres, c'est-à-dire des images de catastrophes comme des accidents de la route, et il a récupéré ces images atroces dont il a fait des icônes, et c'est très fascinant. Et puis cette idée de jouer sur l'ombre et la lumière, et cette idée de faire de la chirurgie esthétique aux stars par le biais du pinceau, ça c'est fascinant. Maintenant, conceptuellement, évidemment, la Campbell Soup c'est important, mais moi ça m'intéresse un peu moins, disons. Si je devais m'acheter quelque chose de Warhol, je préférerais trouver de la poésie.
Tu collectionnes, toi ?
Moi, je n'ai pas assez d'argent pour collectionner, mais ponctuellement, par exemple, je me suis acheté une lithographie qui est tirée d'un papier peint de Warhol. Mmh. Et c'est un truc absolument dérisoire. Mais un papier peint, donc c'est tiré en illimité, blablabla, tu imagines.
Mais c'est industriel, là, pour le coup.
Oui, c'est ça. Mais pour le coup, c'est intéressant parce que c'est un monument. Je l'ai acheté sur Internet. Et ça vient de la fondation, donc c'est légitimé. Et c'est un monument à Washington dont il a fait une esquisse rapide avec le système d'ombre, etc. Et donc c'est un côté phallique et en même temps extrêmement esquissé où on ne sait plus, on ne reconnaît plus le négatif et le positif. Et je l'ai acheté pour un prix tout à fait dérisoire, enfin un truc que peut s'acheter un journaliste, quoi, qui représente déjà beaucoup d'argent pour moi, mais c'est vraiment une crotte de bique pour le collectionneur moyen. Mais je trouve que c'est pertinent. Et donc quand ça fait travailler ton... À la fois visuellement c'est intéressant et ça fait travailler ton esprit, ça fait travailler la mécanique de ton esprit. À ce titre-là, c'est finalement une œuvre pertinente. Et puis en plus, chez Warhol, le caractère mécanique est très important, je veux dire de reproductibilité. Donc c'est une œuvre pertinente. Mais moi je ne collectionne pas, d'abord parce que j'ai un tout petit appart et aussi parce que je n'ai pas les moyens. Mais j'aime bien cette idée. Tu vois, parce que en fait, j'ai cette passion et j'ai un luxe énorme, c'est de voir beaucoup d'œuvres importantes et de même de rencontrer les artistes. Donc, c'est bien.
Ouais. D'ailleurs, comment tu les rencontres ? Ma grande question, c'est est-ce qu'il y a une recette pour arriver à... Parce qu'en fait, c'est pas le terme recette. C'est
une méthode.
Quelle méthode t'as mis en place pour pouvoir rentrer dans ce monde, te faire accepter ? Avoir une
imagine,
voix.
Ça fait 32 ans que je bosse là-dedans. C'est même plus que 32 ans, disons presque.
Oui, mais il y a plein de gens qui travaillent depuis 32 ans sur un truc et qui n'arrivent à rien.
Oui, mais il faut croire que j'ai beaucoup d'énergie et tu ne peux pas savoir. Encore aujourd'hui, d'abord, les attachés de presse, c'est un cauchemar. Tout le monde met des obstacles aux interviews tout le temps. Je suis en lutte permanente pour arriver à faire des interviews. En plus, je fais beaucoup d'interviews vidéo, c'est ça qui m'intéresse. Je suis en train de constituer une archive, je crois... qui va rester, qui est sur YouTube, une archive de mémoire des artistes et des commissaires d'exposition et du marché de l'art et d'analyse du marché de l'art international. Et je crois que ça va rester et je suis très fière de ça. En plus, c'est accessible gratuitement et j'adore cette idée. Mmh. C'est génial. C'est-à-dire, si t'es étudiant et que tu veux voir, par exemple, j'ai interviewé Siester Gates, qui est un artiste afro-américain, qui est fascinant. Il est vraiment fascinant, mais il est fascinant personnellement. Je pense que son œuvre d'art, c'est lui, en fait. Tu vois, parce qu'il est performeur, il est poète, mais c'est comme un prédicateur américain, un prédicateur de l'art. Mmh. Et je voulais l'interviewer, je ne suis pas arrivée à l'interviewer lorsqu'il était au Palais Tokyo, il n'y a pas longtemps, j'étais à Venise, et je l'ai vu dans un dîner, je suis allée le voir, un déjeuner, je suis allée le voir et j'ai dit « Salut, tu sais, j'aimerais vraiment te faire une vidéo avec toi, t'interviewer. » Il m'a dit « Ah, c'est toi la fille du blog ?» Génial, il me connaît. J'ai dit « Ouais, c'est moi. Donc, est-ce qu'on peut... Je sais que tu vas venir à Arles. Est-ce que je pourrais... » Parce qu'il est exposé à Fondation Luma. « Est-ce que je pourrais t'interviewer ?» Il m'a dit « Ok, on le fait. » Et je l'ai interviewé. Et j'y pense parce que j'ai décortiqué... j'ai fait à peu près une demi-heure d'interview avec lui. Je l'ai décortiqué hier quand j'étais dans l'avion. Je l'ai écouté, je l'ai analysé, tu vois, pour ressortir, pour faire un papier avec ça. Et je vais poster sur YouTube l'interview de Siester Gates. Et ce mec est...
C'est un génie. Mmh.
Ouais, il a un truc fascinant, avec une sorte de douceur, de sagesse et d'humanité qui sont confondantes.
Comment tu prépares tes interviews ?
Eh ben, il faut prendre les trucs, les sujets, il faut les prendre de biais. Par exemple, si je commence à dire à ce mec... est-ce que pour toi l'art noir américain est important, ça va être à côté de la plaque. Mmh. Donc, mais surtout c'est quelqu'un que j'ai étudié vraiment parce que j'ai fait un papier sur lui sans l'interviewer avant, mais je l'ai entendu à une conférence. Et pour cette interview par exemple, je lui ai dit parce qu'il fait un travail extrêmement autobiographique et c'est à ce titre là qu'on peut dire que c'est lui qui est l'art. Mmh. Et donc, je lui ai dit, il a raconté qu'une fois, quand il était petit, il vient d'une famille de Chicago et que sa mère lui a offert un jeu vidéo. Et comme il ne voulait pas partager son jeu vidéo avec sa nièce, la mère a pris le jeu vidéo et l'a filé à la nièce. Et que jusqu'à aujourd'hui, il a encore les boules qu'elle aimait ça. Et donc, un artiste... qui raconte une histoire aussi personnelle, c'est très intéressant. Et surtout, c'est un artiste qui a changé la donne de sa communauté à Chicago, etc., qui a fait une sorte d'œuvre d'art de son projet social dans sa ville. Et donc, évidemment que ça vient de sa mère. Donc, ma première question, c'est comment ta mère a influé sur toi ? Alors, il me raconte. Et je lui demande de me raconter cette histoire du jeu vidéo. Il me dit comment ça a influencé. Après, puisqu'on a parlé de la mère, ton père, puisque une partie de ses œuvres d'art sont des goudronnages, des systèmes de goudron de toit, parce que son père avait pour métier très dur de goudronner les toits et qu'il est allé goudronner avec lui. Et donc, il en fait des sortes de reliques, des sortes de ready-made personnels. Et donc, je lui dis, et ton père, il a eu quelle influence ? Et donc, il me dit, ma mère, sur son lit de mort, m'a demandé de pardonner mon père et de l'honorer. Et donc, si ma mère ne m'avait pas demandé ça, et donc c'est génial quand même, tu vas droit au cœur du mec, mmh. Tu comprends ? Et donc, après, tu regarderas plus jamais une sculpture faite de ce goudron ingrat noir, tu vois, de la même manière. Et tu comprends l'âme du mec. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Génial. Mmh. Et après, tu racontes aussi, évidemment, non seulement lui, mais tu racontes ce que tu vois. C'est-à-dire qu'il a fait une installation avec la musique, parce que pour lui, la musique est importante, et la soul music, etc. Et donc, il y a des DJ dans l'espace, et aussi une vidéo qui raconte un site industriel, et aussi sa fascination pour le Japon, et sa fascination pour le Japon qui conduit à distribuer du saké gratuitement, qu'il a fait spécialement pour le lieu à Arles. Donc je lui fais raconter tous ces trucs-là, je lui demande, et le Japon t'a apporté quoi ? Et Chicago t'a apporté quoi ? Et la Biennale du Whitney t'a apporté quoi, tu vois ? Et donc, comme ça, je construis mon personnage autour de ses obsessions et de son vocabulaire. Mmh.
Et pourquoi ils sont tant protégés que ça, par les attachés de presse, tous ces artistes ?
Parce qu'en fait, j'ai accès directement aux artistes et que les attachés de presse n'aiment pas ça.
Ça les gonfle.
Oui, ben c'est sûr, parce que Parce que chacun a son pouvoir délimité, parce que si tu respectes tout le temps le pouvoir des attachés presse, tu n'arrives pas à les interviewer. Mmh. Tu comprends ? Moi, la plupart de mes interviews, elles ne sont pas faites comme toi, de manière ordonnée. Elles sont faites à l'arrache. C'est-à-dire, je prends mon téléphone, j'ai mon stabilizer d'image, et je n'ai même pas de micro, hein. Donc, par chance, la technologie des téléphones est améliorée. Mais on voit les différences de vidéo entre il y a 5 ans et aujourd'hui. Et j'interview le mec à l'arrache. Je lui dis, bon, allez, tu me dis quelque chose, c'est important, ça rend plus vivant l'article, je voudrais que tu restes. Je voudrais que tu sois là, je voudrais qu'on te voie. Alors, j'ai interviewé il n'y a pas longtemps Tassi Tadine, qui a en ce moment une exposition qui est absolument remarquable et que je conseille à la collection Pinault, à la Bourse de Commerce. Et elle a fait une installation de films absolument délirante. Je pense qu'elle a créé un objet quasi sculptural avec son installation filmique. Et elle déteste la vidéo. Elle m'a dit, ouais, on m'a dit que tu allais insister pour faire une vidéo avec moi. Moi, je suis pas OK, etc. À la fin, je lui ai dit, bon, allez, ta copine, Julie Mérétou, on a fait une avec moi. Et tu vois, j'aimerais bien que tu restes. Et, bon, elle m'a dit, OK, mais 3 minutes. Et elle a quand même fait la vidéo. Donc, je crois que c'est important, pas que pour moi. C'est important parce que... Enfin, je trouve ça super.
Important, non mais c'est important de laisser
une trace du travail
des gens, ouais.
Oui, et je pense que aussi la vidéo c'est un raccourci parce que beaucoup de gens ne lisent plus. Et si tu vas sur mon blog, tu peux voir la vidéo et tu peux lire les surtitres, tu peux lire en transversal et tu regardes la vidéo si tu n'as pas envie de lire. Et tu vois un peu la nana, tu vois comment elle est, tu vois qui l'anime. Tu vois ses réactions quand je pose des questions. Et moi aussi, à certains moments, je suis déstabilisée.
Ouais. T'es déstabilisée ?
Ça m'arrive, hein.
Ouais.
Là, j'ai interviewé Carrie Mae Wims, qui est aussi à Luma. Et je lui dis, mais la première question, c'est qu'est-ce que tu as voulu faire ici à Arles parce que tu n'as jamais exposé en France ? Elle a commencé en rigolant pendant 5 minutes. Alors bien sûr, t'es déstabilisé. J'ai fait une faute en anglais parce que évidemment, faut dire que mon blog il est en anglais.
Comment tu y accèdes ? C'est parce que au fur et à mesure, dans les repas, les dîners, tu les croises,
non,
tu les accèdes.
Non, pas du tout. Non, c'est pas comme ça. J'ai des targets, hein. J'ai des cibles. Il y a des artistes que je juge importants et que je veux avoir dans ma valise.
D'accord. Et donc tu les suis, tu les tu les stalks, comme on dit ?
Non, il y a par exemple. Qui je pourrais dire, par exemple Arthur Jaffa, il est selon moi très important, donc il a été à Turin, j'ai écrit à l'attaché de presse et j'ai dit je serai, parce que c'est pas moi qui finance mes voyages, j'ai pas d'argent pour ça, mais je dis je vois que Arthur Jaffa va être à Turin, je voudrais l'interviewer. Par exemple, Francis Alice, qui est un artiste belge qui vit au Mexique, ou qui vivait au Mexique, je ne sais pas depuis le Covid où il est. Et je voulais absolument l'interviewer, je pense que c'est un artiste majeur. Et il était à Amsterdam dans un musée qui n'est ordinairement pas dans mon cercle, qui s'appelle le Hay Museum, et qui est le musée de l'œil, mais c'est un titre assez maladroit qui se consacre au cinéma. Et il a fait une série... Il enregistre à travers le monde les jeux de rue des enfants. Les enfants qui jouent dans la rue. Et d'ailleurs, à la dernière Biennale de Venise, Francis Alice représentait la Belgique. Et moi, ça fait belle lurette que je m'intéresse à lui. J'ai écrit au Hay Museum et j'ai dit « Je voudrais rencontrer Francis Alice ». Et je l'ai interviewé. J'étais absolument la seule journaliste à l'interviewer, à faire le voyage à Amsterdam pour l'interviewer. Et bon, il y a des moments où je suis épuisée, quoi. Épuisé de ses voyages, quoi. Parce que j'ai fait l'aller-retour en un jour, mais c'est génial. Avant tout le monde, j'ai interviewé, et donc, pas avant tout le monde, mais avant beaucoup de gens, puisque l'année dernière, il était au centre de l'attention, puisqu'il était à la Biennale de Venise. Mais quand je l'ai vu, il m'a reconnu immédiatement, et j'ai dit, bon, est-ce que je peux t'interviewer ? Il m'a dit, ah oui, toi, comme on a déjà travaillé ensemble, oui, j'accepte. Donc ça fait 2 interviews de Francis Alice, qui est un artiste assez marginal, et qui est absolument extraordinaire et d'une immense humanité. Comme il a remarqué que que les jeux d'enfants disparaissaient. Il va en Afghanistan, il va au Mexique, il est avec une toute petite équipe et il regarde la poésie au Mexique. Il regarde la poésie d'un petit garçon qui joue avec un pneu qu'il fait rouler du haut de la montagne. Et c'est je ne peux pas dire un autre mot, c'est une poésie extrême. Et c'était génial de mettre dans ma boîte, comme dirait Warhol, de mettre dans ma boîte cette chose-là, cet artiste qui raconte sa fascination pour les jeux d'enfants qui disparaissent parce qu'on n'autorise plus les enfants à aller dans la rue.
C'est dangereux.
Oui.
C'est vrai, c'est beau. Mais c'est quoi ta quête, toi ?
Ben, je suis curieuse du monde. Et là, on est dans une période d'immenses changements dans tous les domaines. Et donc... C'est merveilleux d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et moi, je suis autorisée à poser des questions à des gens extrêmement pertinents. C'est une chance folle. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a les NFT qui ont fait une explosion totale. L'art digital. Moi, j'adore Rubens. Mais je me suis forcée à m'intéresser à l'art digital. Il y a des choses très pertinentes. Il y a des choses moins pertinentes.
Comme souvent. T'es puissante ?
Non.
T'as pas de pouvoir ?
Si, j'ai un petit pouvoir, mais...
C'est quoi ton petit pouvoir ?
Mon petit pouvoir... J'aime pas penser que j'ai du pouvoir, ça m'ennuie.
Non mais t'as, en tout cas, là où je veux en venir, c'est que t'as... Moi je vais te le dire, t'as un certain pouvoir.
Mais comment tu sais que j'ai du pouvoir ? Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai du pouvoir ?
Bah parce que t'as la force de ton blog, t'es lu par des gens qui sont importants. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te lisent et qui se font des avis sur des artistes ou qui décident d'acheter des œuvres ou pas en fonction de ce que tu dis, ce que tu en racontes. Donc ça, c'est un certain pouvoir.
Ah oui, alors tous les artistes, ont, pas les artistes, tous les journalistes, tous les critiques d'art ont du pouvoir dans ce cas-là.
Oui, mais est-ce que toi, t'es particulièrement écouté ?
Moi, je n'aime pas m'intéresser à ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais je peux te dire que ce que je fais aujourd'hui est le fruit d'un effort colossal. Que je ne suis pas financée. Il n'y a pas Balenciaga ou Bottega Veneta qui financent mon travail. Hein. Donc, je paye le prix de ma liberté. Et le pouvoir, ce serait... Non, je suis... Je pense que je suis fragile. Hein.
Mais est-ce que tu peux faire un artiste ?
Non.
Ou défaire un artiste ? Non.
Non. J'espère pour lui que non.
D'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on trouve un... Les enfants qui passent. Comment est-ce qu'on trouve un... Comment tu finances tout ça ?
J'ai des tas d'activités. Mais d'abord, j'écris pour les Échos. J'écris au moins deux articles par semaine dans les Échos. Mais c'est un...
Sur le monde de l'art, bien sûr.
Comment ?
Sur le monde de l'art, hein, pas sur la choucroute.
Non, bah oui, sur l'art et sur le marché de l'art.
Sur l'art et le marché de l'art.
Et puis, je fais des expos, je fais des livres, donc je travaille énormément, je produis beaucoup. Hein. Mais j'ai pas un train de vie énorme.
Et quand tu dis que tu fais financer tes voyages, comment t'arrives à faire ça ? C'est fou.
Non, mais en fait, il faut savoir que quand je vais dans une foire à New York, je suis invitée par la foire.
D'accord.
Donc si c'est une foire nulle, j'y vais pas. Et quelquefois, je dis que c'est nul et je suis plus jamais invitée, voilà.
D'accord.
Et je suis invitée à des expositions et quelquefois, je finance aussi mes voyages. Par exemple, c'est bien d'aller au moins une fois par an à New York pour voir les expos.
Ok. Ouais, bien sûr.
Et donc, je paye un billet d'avion, je suis souvent logée par mes amis, il y a des choses comme ça, quoi. Mais maintenant, ça, c'est l'avantage d'avoir 30 et 32 ans d'expérience, c'est que je suis invitée.
Ah, c'est pas
mal.
Il
m'arrive souvent d'être invitée.
Je me fais pas encore inviter, moi. Comment est-ce que... Non, la question que j'avais, c'est d'après toi, je dois interviewer qui dans ce monde de l'art pour mieux le comprendre ?
Les artistes, c'est très important.
Qui en particulier, tu penses ?
Ce serait bien d'interviewer un ou deux jeunes artistes différents qui sont en phase d'éclosion. Par exemple, il y a une. Mais ça, c'est en anglais, donc ça ne marche pas pour toi.
Si, si, je fais la traduction en anglais.
Ah ouais.
Je fais français, anglais,
parce qu'il y a une jeune artiste qui s'appelle Serre Serpas, ouais, qui va être exposée à la rentrée chez Pinault, et qui est. Qui a un aplomb qui est extrêmement intéressante.
Okay.
Il y a, par exemple, en ce moment, chez Lafayette en Anticipation, il y a un très jeune artiste dont j'ai été la première à parler, qui s'appelle Paul Taburet, P-O-L Taburet. Et il a un monde à lui, quoi, c'est dingo. Et il commence. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps à New York, j'ai vu qu'il avait un tableau dans une très bonne galerie. Je suis sidérée. Donc, il est dans le vent. Mais il a un vrai monde à lui, qui est un monde entre Bacon et surréalisme, avec des couleurs flash, des cauchemars, c'est intéressant.
Paul Taburet.
Parce que la difficulté, c'est d'interviewer des gens qui disent la vérité.
C'est ça. Comment on fait dire la vérité aux gens ?
On ne fait pas dire la vérité aux gens, on choisit les bonnes personnes.
Ça ressemble à quoi, tes journées, tes semaines, ta vie, ton quotidien ?
Eh bien, donc je voyage beaucoup, disons une fois par semaine.
Une fois par semaine, tu es soit à New York, Londres, Paris ?
Ouais, non, je vais aussi à Arles, à Nîmes. Là, je suis allée à Monaco, il y a une exposition Monet qui est impressionnante, si ce n'est des messages enregistrés là. Tu te crois dans un hall de gare, mais sinon les monnaies sont incroyables. Je suis allée à la Fondation Mag et je suis allée voir une expo Matisse aussi au musée Matisse de Nice. Donc j'ai fait 3 villes en 2 jours. Et puis, donc je voyage beaucoup, mais j'ai besoin de rentrer chez moi, d'être chez moi, d'écrire, de réfléchir. J'ai mes bouquins autour de moi. Ben, j'ai une discipline de faire parce que j'ai toujours travaillé chez moi. Donc je me lève le matin. Un super petit déjeuner, je caresse mon chat et puis je prends du très bon thé parce que j'adore le thé, du thé sophistiqué, vert
chinois.
Voilà. Okay. Et je place ma jolie théière, une théière avec une jolie forme et le bol que j'ai choisi avant, et je commence à écrire. Et j'écris beaucoup dans la journée, souvent, et donc. Ça alterne entre les visites d'expo, les interviews, les voyages et une hyper tranquillité à la maison.
C'est génial cette vie. Enfin, ça paraît cool. Enfin, ça paraît cool. C'est beaucoup de travail.
C'est énormément de travail.
Mais c'est de la passion.
C'est
une vie de passion.
Oui, c'est une vie de passion. Un peu dur. Tu dois connaître ça matériellement. C'est pas toujours facile. Mais en même temps, franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Parce que c'est palpitant, parce que je rencontre des personnages extraordinaires. Les artistes font preuve d'une liberté qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça, c'est vraiment confondant. Ils sont libres, ils ont les yeux tellement ouverts. Enfin, certains artistes. C'est un grand privilège. Et puis, les directeurs de musées, je vais dans des musées, je me balade. Alors, moi, j'ai besoin de liberté. J'aime pas trop qu'on me contraigne. Donc, voilà.
Très bien, ok. T'as l'impression d'avoir fait des sacrifices ?
Je déteste l'idée du sacrifice. C'est vraiment atroce. Parce que quand il y a du sacrifice, ça veut dire qu'il y a ça veut dire qu'il y a de la frustration et du ressentiment. Et j'essaie de n'avoir ni frustration, ni ressentiment, ni regret. Alors j'y travaille tous les jours. C'est-à-dire j'essaie de bien traiter mon entourage, j'essaie d'être morale, j'essaie d'être curieuse et sans idées préconçues, donc c'est un travail permanent. Et en fait, à un certain moment, t'étouffes un peu, t'en as marre, comme à la mi-juillet, t'as envie de respirer.
T'es snob ?
Non, mais je suis un peu maniaque. Par exemple, il y a des bruits que j'aime pas. Je me suis aperçue de ça. On dit misophone.
C'est quoi les bruits qui t'énervent ?
J'aime pas le bruit du pied qui heurte la tongue. Tu vois, des trucs comme ça.
Oui, je vois.
J'aime bien qu'il y ait un accord de couleur.
Ouais.
J'aime bien manger certains fruits, qu'ils aient bon goût. Voilà, des trucs, tu vois, des trucs de maniaque, quoi.
Une question un peu... Un peu bad, pas bad vibe, mais qu'est-ce que tu ferais si tu restais 3 ans à vivre ?
J'aimerais encore plus.
Ouais. Plus de quoi? Plus de...
Ah non, pas... Quoi? Qui? J'embrasserai les gens que j'aime.
Beaucoup. Très bien. Écoute, merci infiniment. J'ai l'impression de repartir plus intelligent, grandi, nourri. Merci infiniment pour tout ça. Où est-ce qu'il faut te suivre?
Il faut absolument aller sur mon blog, s'il vous plaît. Mais il est en anglais. Ça s'appelle Judith Benamou Reports. Et il y a plein de vidéos. Et j'ai besoin d'encore plus. J'envoie une newsletter à 10 000 personnes.
C'est beaucoup.
On peut s'abonner.
Ouais.
Mais je voudrais avoir plus de followers encore. Et puis, je suis sur Instagram. Et puis, je sors ce livre chez Flammarion en octobre.
Ouais.
Et puis, j'écris des bouquins.
Et t'as quand même 10, 15 bouquins. Non, t'en as combien? T'en as vraiment beaucoup, des bouquins?
Non, pas beaucoup, une dizaine.
Une dizaine, ouais.
Avec les catalogues d'expo aussi.
Passionnant. Dernière question pour transmettre le relais, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast? Tout à l'heure, t'as parlé de jeunes artistes.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres personnalités que tu voudrais absolument entendre?
Moi, je pense que les artistes, c'est bien, mais il faut trouver les bons artistes.
Ouais, qui s'expriment bien sur le sujet et qui sont ouverts, ouais.
Et qui ne soient pas convenus. L'idée, c'est de ne pas interviewer des gens convenus. Ou alors tellement convenus qu'on décèlerait leurs pensées derrière leurs paroles. Ça peut être intéressant aussi. Des gens très convenus.
Tu vas m'aider à en trouver. Merci infiniment, Judith. À bientôt, salut.
Je suis Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. Retrouvez l'épisode en texte et en images sur theboldway.fr. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.